Alors, donc avant-hier, nous avons commencé l'avant-dernier paragraphe. Au début de la première colonne de la page 2 du Maharal, c'est Verot Taramik Vazé. Alors, si vous vous souvenez, en fin de cours, nous avions commencé un peu à déchiffrer ce texte, et finalement, il y a eu des questions qui nous ont un peu arrêtés. Enfin, je rappelle très brièvement, pour ceux qui n'étaient pas là, que nous sommes en train d'étudier le verset du chapitre 4 de Shmot, où l'on voit que lorsque Moïse reçoit la mission de retourner en Égypte pour assurer la délivrance d'Israël, et c'est un moment important puisqu'il est celui de la constitution du clan d'Israël à la sortie d'Égypte, nous nous rappellerons les trois moments dont parle le Maharal ici: Abraham, le début de l'histoire d'Israël; Moïse, c'est lorsqu'Israël devient une nation; et le Mashiach, à la fin des temps, que nous verrons à la fin du cours. Et là, le texte nous indique que Moïse a installé sa femme et ses fils sur l'âne. Vayarkivem ala hamour. Nous avons déjà eu plusieurs enseignements du Maharal à ce sujet. Et finalement, il va étudier une dernière question en se basant sur le Midrash qui nous dit que cette âne était créée déjà depuis le commencement de l'histoire, Erev Shabbat ben Hashemashot, c'est-à-dire à la fin du sixième jour du commencement et avant qu'il ne soit vraiment que le monde ne soit vraiment entré dans la Kedusha Shabbat, entre Chol et Kodesh, vous vous rappelez de la définition qu'on a eue là la dernière fois, et que c'est ce même âne qu'on retrouvera avec Abraham et qu'on retrouvera à la fin des temps avec le Mashiach. Toute cette étude était basée sur le fait que le verset porte Vayarkivem al ha hamor, c'est-à-dire non pas sur un âne, ce qui aurait été une indication, une information d'ailleurs inutile, parce que qu'est-ce que cela aurait pu être important de savoir si c'était sur un âne ou un autre animal. Vous vous rappelez que le Maharal a posé la question de cette manière, mais sur l'âne par excellence, ha hamo. Cet âne qui est prêt pour le voyage du tzaddik. Le thème qui était apparu, et je le résume vraiment trop brièvement, c'est une indication qui nous montre que le tzaddik, Abraham, Moïse, le Mashiach, domine le niveau déterminé, matériel du monde. Rappelez-vous la relation Hamor-Homer. Bien. Et alors on arrive à la dernière question sur ce sujet. C'est pourquoi, pour indiquer le niveau de la matière que le tzaddik doit subjuguer, dominer, l'irko ala hamor, ça veut dire donc les dromem al haolam, vous entendez bien en hébreu, je ne sais plus traduire, mais enfin vous avez compris. Top. Eh bien, pourquoi il faut que ce soit un hamor, un âne, plutôt qu'une autre, un autre animal, qu'une autre manière d'être vivant, et qui serait le niveau de la relation entre l'homme et le monde de la matière absolue. Alors on a déjà été aidé par cette indication de sémantique déjà, que Hamor et Homer sont la même racine. Alors je reprends directement la traduction du Maharal à travers laquelle, s'il y a des questions qui se posent, on les approfondira. Ve'ot ta'amik vaze lamadavka hayuch rochbim al Hamor. Et il faut approfondir ce fait, se demander pourquoi c'est en particulier sur un âne que les tzadikim voyager quand ils avaient voyagé, velo sous chez Nibra ben Hashemashot, et non pas par exemple un cheval qui aurait été créé avec la même caractéristique, pas totalement la détermination matérielle, pas totalement la nature, pas uniquement la nature, mais déjà transfiguré et permettant une relation possible au niveau de sainteté. Ça reste un peu obscur pour ceux qui n'étaient pas là précédemment, mais je fais allusion aux analyses précédentes. Est-ce qu'un autre animal n'aurait pas pu être, et je voudrais éviter d'employer le terme de symbole, mais enfin, la désignation de ce niveau de la réalité naturelle qui serait la charnière entre la nature vraiment et le monde de la sainteté, est-ce que ça ne pourrait pas être un autre animal? Et je crois que ce n'est pas par hasard que le Maharal a choisi le cheval pour poser sa question. Pourquoi pas un cheval qui aurait été créé, Erev Shabbat ben Hashemashot ? D'autant plus que, comme il nous l'avait lui-même annoncé, ce qu'on attendait, c'était quel autre animal ? Un chameau, vous vous rappelez ? Au temps des patriarches, on voyageait sur des chameaux. On connaissait aussi les ânes, mais voilà que c'est surtout, puisque Abraham avait aussi un âne, mais c'est surtout l'âne qui va être choisi. La différence qui nous est apparue, c'est que c'est aussi différent l'âne et le cheval que la même façon d'être animal, mais encore indifférencié, est déjà beaucoup plus différente. Je crois que c'est la catégorie que nous avons rencontrée au dernier cours et qui me semble la plus éclairante sur ce problème. Plus la matière est encore à un niveau d'indifférenciation, et plus elle est proche de la sainteté propre à la matière elle-même. Nous avons déjà rencontré ce concept paradoxal, sainteté naturelle, déjà dans le premier cours. Et ça fera donc l'objet de l'approfondissement et de l'étude. Nous sommes de nouveau à l'intérieur d'un monothéisme radical. Et par conséquent, c'est tant la matière que l'esprit qui est créé par le même créateur. Et donc, même si nous admettons, ce qui est évident, que l'esprit est d'un niveau de sainteté plus grand, évidemment, que celui de la matière, il est bien évident aussi qu'il y a un niveau de sainteté propre à la matière. Autrement, nous ne pourrions pas comprendre l'affirmation monothéiste que c'est le même créateur qui crée et la matière et l'esprit. Alors, quel est le niveau de sainteté propre à la matière ? Dans le vocabulaire que j'emploie maintenant, c'est le niveau le plus indifférencié, c'est-à-dire là où la matière est plus matière. Regardez le paradoxe. Là où la matière est le plus matière, c'est-à-dire le moins complexe, la moins organisée, l'impureté, c'est toutes ces étapes transitoires qui fait que le fonctionnement, ici nous sommes au niveau de la vie biologique, si vous voulez, le fonctionnement de la vie biologique sécrète ses propres scories. Et par conséquent, plus un être est complexe, et plus il est vulnérable à l'impureté. Et plus un être est indifférencié, et plus il est propre de cette, entre guillemets, sainteté proche, je veux dire, sainteté propre à la matière. Alors là, nous avons un concept nouveau, si vous voulez, qui se rattache au concept que je vous avais cité au premier cours, donc déjà dimanche, peut-être encore lundi, de l'enseignement du Rav Kook, c'est la notion de Kedusha Tivrit, que la nature comme telle est véhicule de sainteté, d'une sainteté qui n'est pas la sainteté séparée de la nature, mais la sainteté qui fait exister la nature elle-même. C'est un concept délicat, donc, puisque la langue que nous employons dans cette analyse se relie à une conception du monde dualiste. Et on a l'habitude de considérer que, et à un premier niveau, cela est absolument exact, que la condition de la sainteté, c'est la séparation du naturel. Est-ce que c'est suffisamment clair ou je vais trop vite, hein? Que la Nivdal, Kadol, c'est Nivdal, Parouche. Hein? Et que par conséquent, il y a une première forme de la sainteté qui est, bien évidemment, le refus du conditionnement matériel. Mais il se dévoile là une autre catégorie, une deuxième catégorie, qui va nous apparaître comme paradoxale, mais enfin c'est l'objet de cette analyse, d'arriver à l'éclaircir, et qu'il y a inévitablement une sainteté dans l'ordre naturel. Mais à condition de comprendre cet ordre naturel le plus proche possible de la volonté du Créateur. Et pour employer une expression un peu trop littéraire, sortie des mains du Créateur. Lorsque la matière est vraiment ce qu'elle est, c'est-à-dire indifférenciée, alors elle est pure. Et il y a là une sainteté d'une deuxième catégorie, qui sera donc la Kedusha Tivrit. Bon, je vous annonce tout de suite un paradoxe encore plus grand. Je ne sais pas si nous y arriverons dans cette analyse ou autrement. C'est que nous sommes aussi habitués à l'idée que la première forme de sainteté, la sainteté coupée, détachée, s'opposant au naturel, et ce qu'il faut entendre par naturel, c'est la détermination, la détermination de l'ordre naturel, qui est, à la limite, c'est la mort. Si vous voulez, la limite de la loi de la nature, dans le sens philosophique pessimiste du terme, enfin pessimiste, disons tragique, eh bien, c'est la mort. La nature par excellence, telle que ce concept est apparu dans la philosophie des Lumières d'ailleurs, pour remplacer l'idée de Dieu, Et je crois que le responsable à l'origine, c'est Spinoza. Mais je referme la parenthèse. Et l'ange de la nature, si j'ose dire, pour employer les expressions de ce temps, c'est l'ange de la mort lui-même. Le fonctionnement naturel, dans ce sens-là, mène à la mort. Et donc, il est bien évident que nous retiendrons cette première définition. La sainteté coupée de la nature nous apparaît comme une sainteté supérieure à ce qui serait la sainteté propre au naturel. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon. Mais le paradoxe que nous aurons à retrouver, c'est que c'est l'inverse. C'est que lorsqu'il y a alliance entre la valeur de sainteté et la valeur naturelle, il y a un niveau supérieur, plus proche du projet du Créateur que lorsqu'il y a rupture et opposition. Que la Kedusha Tiveit est supérieure à la Kedusha qui est les Mahala Me'ateva. Bien, il y a énormément de textes du Rav Kook à ce sujet, mais ça c'est un concept nouveau. Enfin, pas vraiment nouveau dans le sens radicalement autre, mais renouvelé, et auquel probablement nous nous sommes déshabitués. Mais ce qui indique une certaine imprégnation, peut-être, un peu trop grande, de la mentalité dualiste. Yeah. Et alors, voilà quelle est l'indication que nous donnera le Maharal ici, c'est la notion de pshitut, c'est-à-dire de simplicité. Plus la matière est simple, et plus elle est véhicule de cette sorte de sainteté que nous appellerons la sainteté naturelle. Et vous comprenez d'ailleurs les implications de morale simple, pour employer ce terme de nouveau, c'est-à-dire plus un être est simple. Alors vous voyez que nous naviguons à l'intérieur de vocabulaire délicat, et plus il est, et d'où toute la longue digression que nous avons eue, et elle n'est pas là, celle qui n'était pas d'accord là-bas, concernant la simplicité de la foi. Etc. Si ça vous intéresse, on pourrait y revenir, mais je vous propose d'avancer d'abord dans le texte. Alors, da, sache, qui est mbria, yoter pshuta minahamor. Vous voyez, cette idée que plus la matière est simple et plus elle est véhicule de sainteté, au fond, c'est ça l'idée choc. Et le Maharal, on aurait dû nous dire, étonne-toi de cela d'abord. Non, il va nous affirmer quelque chose de beaucoup plus étonnant. Au niveau duquel on ne peut pas dialoguer avec lui, parce que c'est une affirmation d'autorité, sache qu'il n'y a d'autre créature plus simple que l'âme. Vous voyez ? Bon, alors là, assez rapidement, nous allons, comment dire, garder simplement cette description empirique que sans doute les anciens étaient capables de diagnostiquer cela beaucoup plus facilement que nous. Nous sommes tellement artificialisés, avec moins de contact avec les choses naturelles, que nous ne pouvons pas percevoir immédiatement ces expériences, que lorsqu'on voit un âne, alors on voit un cheval très antérieur. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Quelque chose comme ça. Alors que le cheval, lui, au contraire, est beaucoup plus affiné, beaucoup plus civilisé, enfin, je ne sais pas comment dire, beaucoup plus évolué. Bon, vous avez compris quelle est l'idée, cette noble conquête de l'homme capable de faire d'un âne un cheval. Bon, et puis alors le cheval, c'est l'impasse, alors que l'âne, c'est quand même cette indifférenciation de l'être biologique dont nous parlons ici, qu'il y aurait, si vous voulez, une bonne santé naturelle dans la manière d'exister qui est l'être vivant biologique le plus inférieur. Et plus la complexité s'affine, et plus les portes ouvertes à l'impureté sont nombreuses. Ça se rattache à différents thèmes qui sont à la base des mitzvot de la Torah. Dès qu'un être est voué à la sainteté, alors il est vulnérable à l'impureté. Vous voyez, cette accumulation des lois concernant l'impureté qu'on a par exemple dans le livre de Vaïkra, le Lévitique, dès que Israël se constitue en communauté sainte, alors lui sont dévoilées les lois de distinction entre la pureté et l'impureté. Ou bien, dans l'ordre de la kashrout, vous remarquerez que plus la nourriture est à un niveau, et encore j'emploie évolution avec guillemets, à un niveau d'évolution inférieur, et alors plus les lois de la kashrout sont simples. Par exemple, au niveau du minéral, eh bien, il n'y a pas de distinction entre le pur et l'impur. La distinction est entre le mesoukan ou le mesoukan, c'est-à-dire dangereux à manger ou pas dangereux à manger. Et le symbole, si vous voulez, de la nourriture cachère, si j'ose dire, à ce niveau-là, c'est le sel. Le sel est absolument pur, etc. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le niveau d'être, alors on s'aperçoit que les lois d'affinement de la séparation entre le pur et l'impur deviennent de plus en plus complexes elles-mêmes. Par exemple, au niveau du végétal encore. Au niveau du végétal, bien, le végétal bon à manger pour la Torah, c'est le végétal bon à manger pour l'organisme, etc. Mais au fur et à mesure qu'un être est évolué, disons, il est plus vulnérable à l'impureté. C'est un problème pas simple. Et je crois que c'est un des exemples de problèmes où les Talmidei Chachamim et les savants des sciences expérimentales devraient collaborer, au moins pour arriver à recoder le vocabulaire. Parce que vous devinez à quel point, dès qu'on aborde ces questions de confrontation ou affrontement des deux sciences dont nous parlons, alors il y a toute une élaboration de vocabulaire qui reste encore à faire. Je n'ai voulu dire les choses que grosso modo. Bien, je crois que maintenant cette notion est suffisamment analysée. Dar qui est nubria yoter pshuta mina hamor, shehu kulo homer. Simplement, je l'indique, ça peut être intéressant, qu'au fond, nous percevons bien que lorsque nous changeons d'époque culturelle, nous changeons d'image, des schèmes de représentation. Très certainement encore au temps du Maharal, c'était le temps où la culture occidentale est en train de passer dans l'époque post-Renaissance. Cette idée que le hamor représente le biologique indifférencié était donc immédiatement perceptible. Et aujourd'hui, nous avons besoin de dépenser un quart d'heure pour le rappeler. Oui.
Exactement, ça
n'est
pas du tout.
Pardon ?
Ça n'est pas du tout.
Ça n'est pas du tout actuellement, bien sûr, comme énormément de choses dont le Hachamim nous parle. Il faut remonter à travers la tradition orale pour retrouver les évidences de l'imaginal. J'ai pas dit l'imaginaire, mais enfin, d'ailleurs, en général, le moderne n'arrive plus à comprendre l'imaginal. Sauf le cas particulier de ceux qui sont capables d'une expérience dite, disons, entre guillemets, mystique. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de mystique. En réalité, il s'agit d'une manière de connaître un certain découpage de la représentation du monde, une certaine description d'une réalité concrète dont nous avons perdu la signification du symbolisme. Par exemple, pourquoi le matin, pour dire l'intelligence, nous disons le coq ? Anoten la servi binal et aprin benyum umel laïla. C'est sûrement pas parce que c'est le symbole de la France, mais Rachid dirait peut-être. Bien. La homer, hu hapashut yoter shelo kibel tzura. Et qu'est-ce que c'est que le homer ? Homer, c'est-à-dire donc la matière, c'est cette manière d'être la réalité du monde, mais la plus simple. Hapashut yoter, en tant que, et voilà la notion nouvelle qui apparaît, shelo kibel tzura, qui n'a encore pas reçu de forme. Tzura, la forme qui informe la matière. Bon, vous remarquerez l'influence du vocabulaire de la philosophie du Moyen-Âge, mais ici, l'idée importante, c'est que ce qui est homri, matériel, mais indifférencié, pouvant recevoir telle ou telle ou telle ou telle forme, est plus kadosh que ce qui a déjà reçu une forme beaucoup plus particularisée. Nous allons voir que, très rapidement, tout cela va s'inverser, mais c'est d'abord le premier postulat qu'il faut retenir. Je pourrais vous donner peut-être une indication au niveau du vocabulaire lui-même. En hébreu, nous avons deux mots qui ne sont pas la même racine, mais qui sont très proches. C'est la notion de bria, la création, et briout, la santé. Le bari, sain, S-A-I-N, c'est très proche de nibra, ce qui vient d'être créé dans l'état où il vient d'être créé. Alors, ce concept de la santé est S-A-I-N, qui est très proche du créé. Et tant qu'il n'y a pas encore complexification de telle ou telle forme de plus en plus particulière, alors il y a une affleure de ce qu'on a appelé tout à l'heure la sainteté naturelle. Concept qui est très difficile à comprendre si on ne se rehausse pas au niveau d'un monothéisme radical. C'est-à-dire, tant qu'on garde le monothéisme et influencé par le dualisme, que la matière et l'esprit sont radicalement différents, ce qui est vrai aussi dans beaucoup de niveaux d'expérience, que l'esprit et la matière, c'est pas la même chose, que la matière c'est l'oubli, alors que l'esprit c'est la mémoire, etc. Mais à l'intérieur d'un monothéisme radical, cette idée de sainteté naturelle cesse d'être étrange. Mais ça ne veut pas dire que dans la nature tout est saint, ou que dans la nature tout est divin, disons, pour reprendre un autre thème qui va apparaître. Il y a énormément d'impuretés dans la nature, mais c'est le résultat du fonctionnement de la vie de cette nature. Alors voilà donc l'idée qui apparaît. À Homer ou à Pashut Yoter, chez Loki Beltzura. Et regardez avec quelle aisance le Maharal passe d'un registre à l'autre. Il nous parle d'un âne, mais en réalité, il nous parle du niveau de la détermination naturelle. Vechena Hamour, et de même l'âne, Bahavur, chez Hamour, noté la Homer, par le fait que l'âne tend vers la matière. Mais ce sont des choses impossibles à traduire. La Hamour, noté la Homer. Il y a une tendance. La tendance à être âne, se dirait en hébreu, c'est la tendance à être matière. Mais tous les animaux sont animaux. Pourquoi l'âne en particulier? Vous voyez donc l'idée qu'il y avait. Vous savez ce qui caractérise l'enseignement du Maharal à ce propos? Oui, et effectivement. Et donc, pas pour rien que les anciens hébreux, les premiers, ceux qui ont parlé la première fois hébreu, ont appelé cet animal Hamour et pas autrement. Je veux dire, ce qui caractérise le Maharal ici, c'est qu'il nous impose l'analyse conceptuelle qui se cache derrière les désignations concrètes du Midrash, mais sans jamais les distinguer l'un de l'autre. C'est-à-dire, il ne nous dira pas que le Midrash n'était là que pour nous suggérer une idée philosophique et qu'il faut maintenant faire l'analyse de cette idée philosophique. Et vous voyez, comment est sa dialectique ? À chaque membre de phrase, il revient au langage du Midrash pour nous montrer qu'il y a les deux choses à la fois. Je crois que ça, c'est très juif. Et face à ce qu'on appellerait la philosophie abstraite, c'est-à-dire que finalement, ce qui importe, c'est de comprendre, c'est d'atteindre la sagesse qui concerne le concret de la réalité du monde, et non pas la sagesse abstraite absolument, extraite complètement du monde. Je crois que c'est extrêmement frappant. D'où sans doute l'importance que le Maharal a eue dans l'histoire de l'enseignement de la Torah. En ce sens que vous pouvez trouver un type d'enseignement qui se borne à l'analyse des termes concrets du Midrash pour eux-mêmes. Et alors ça mène parfois à un symbolisme désincarné aussi, mais du côté du symbole, un symbolisme moralisant, un symbolisme mystiquisant avec Rom Rimedzi. Comment on peut dire ça, de type mystique, etc. Ou alors vous avez des analyses philosophiques pures qui vont, par exemple ici, derrière le concept de l'âne, enfin le schème de l'âne, parler du concept de matière, et puis s'envoler dans une analyse abstraite et qui ne serait que purement abstraite. Alors que le Maharal nous oblige, une fois de plus, c'est en cela que c'est très juif du point de vue de l'accès à la connaissance, il nous oblige à une coïncidence absolue entre ce qu'on appelle en français l'esprit et la lettre, ou la forme et le fond. On n'a jamais cessé de parler de l'âne, vous comprenez ? Mais on n'a jamais cessé de comprendre ce que c'est que l'indifférenciation de la matière. Bien. Alors nous pouvons un peu continuer. Je crains que pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, ça soit un peu, comment dire, adodane, mais on va essayer quand même d'avancer. Toute autre créature a une forme, dans le sens donc du Moyen-Âge, a une forme importante, hashuva, alors que l'âne, non, il a une forme, on dit, nous aurions tendance à dire grossière, mais comme ça veut dire indifférencié, ça veut dire plus riche de possibilités, Et c'est en cela qu'elle est beaucoup plus proche de la sainteté matérielle. Devinez ce qui va arriver pour ceux qui sont un peu habitués au texte. Il va y avoir un cas particulier, énorme, avec l'âme dans la tour. Et voilà de quoi il s'agit. Tous les premiers-nés, on revient aux premiers-nés comme par hasard, tous les premiers-nés des bêtes, des espèces animales, sont consacrés par essence. Quelqu'un m'avait posé une question sur... Oui. Et voilà que la Torah, elle nous fait comprendre, évidemment, qu'il ne peut s'agir que des premiers-nés des bêtes cachères, c'est-à-dire propres au sacrifice ou à la nourriture. Et puis, il y a un cas particulier, l'âne. Le premier-né de l'âne est consacré au temple, comme tous les autres premiers-nés, du bœuf, de... Bon, le bœuf est l'âne, on verra peut-être si on y arrive. Mais... Alors c'est étrange, parce que c'est une bête impure, qui que jamais de la vie on ne fera rentrer au temple, ni non plus sur la table. Okay? Et alors le Maharal s'installe en plein dans ce problème, en nous indiquant, tu vas comprendre par là pourquoi le premier-né de l'âne est consacré, comme le premier-né des autres bêtes qui, elles, ont reçu de par leur forme de complexité, de par leur forme d'évolution, la capacité de sainteté, mais lui, c'est par sa non-forme d'involution. Il est le premier-né de la matière. Et le premier-né de la matière doit être lui aussi consacré. Mais comme il nous est interdit, alors il lui faut un substitut. Et on va substituer au premier-né de l'âne un premier-né de quelle espèce, vous connaissez? De... Je vous dis le verset, alors vous allez traduire. Vet becho hamur tifde be... C'est, mazé, c'est, qu'est-ce que c'est, hein, c'est un agneau. Alors vous ne savez pas ça. C'est-à-dire le premier-né de l'âne était remplacé par un premier-né, par un agneau, et on a porté l'agneau en sacrifice de premier-né à la place du premier-né de l'âne. Vous voyez les deux principes qui se chevauchent, si j'ose dire, qui sont en compétition. D'abord le principe de la consécration du premier-né, et d'autre part, les principes de la pureté et de l'impureté de l'espèce animale. Et voilà qu'ici, nous avons une espèce absolument impure, l'âne, et qui cependant va entrer dans la catégorie de la consécration des premiers-nés. Alors, il ouvre un tout autre midrash pour montrer que ces mêmes catégories ont aussi un sens important à un tout autre niveau, que nous appellerons donc de nouveau l'historiosophie, c'est-à-dire la signification typologique de l'histoire humaine. Vous remarquerez cela, que des nations entières vont recevoir des totems, comme nous disions chez les Boy Scouts. Et alors, il y a des peuples qui s'appellent par des noms d'animaux. Par exemple, la France, c'est le coq, etc. Je ne crois pas du tout qu'il y ait là un hasard de l'imagerie de l'inconscient de l'humanité. Il y a certainement là encore, assurément, une science qui s'est perdue. Et comment se fait-il que certaines manières d'être homme s'identifie totémiquement plutôt par tel symbole, que ce soit sur le drapeau ou ailleurs, que par tel autre. Bon. Eh bien, il y a tout un midrash qui nous raconte aussi une des raisons pour lesquelles Jacob n'a pas voulu être enterré en Égypte. Et vous vous souvenez de ce midrash? Bon, le principe général étant que il aurait risqué de devenir une des divinités de l'Égypte. Et ces types de civilisations-là qui avaient l'habitude d'adorer les traces du passage d'Israël en leur sein. Et juste après, et avec lui, Joseph va demander à ses frères la même consigne. Et vous comprenez quel est le thème. Vous ne croyez pas qu'il s'agisse là simplement d'une idée midrashique, comme on pourrait dire péjorativement. Effectivement, l'histoire nous le montre, que les grandes civilisations ont tendance à adorer la trace d'Israël dans leur histoire. Et je pense que l'exemple le plus évident est évidemment le christianisme, mais il n'y a pas que cela. Il y a toutes ces écoles de la culture contemporaine, d'ailleurs, ça se relie un peu à notre sujet, depuis l'ouverture des ghettos en Europe, qui considèrent leurs juifs fondateurs de la discipline dont ils sont les membres comme le Joseph de l'Égypte, c'est-à-dire digne d'adoration. Bon, Marx, c'est évident aussi, mais Freud ou d'autres, okay, vous voyez, il y a quelque chose, disons, je ne voudrais pas trop exagérer, et quoique je pense que ce n'est pas de l'exagération, mais il y a quelque chose de cet ordre, une tendance à diviniser, même sous forme laïcisée, sécularisée, mais la trace d'Israël à travers la civilisation d'Israël. Et alors, le Midrash fait parler Jacob en citant ce verset. Parce que Jacob est comparé à l'agneau, c'est Pesoura Israël. Et c'est l'Égypte qui est reliée à l'âme, et à travers Ishmaël d'ailleurs. Et puis alors, voilà, le verset dit « Ved bechor hamor tifde bese » et tu rachèteras le premier-né de l'âne par l'agneau. Alors Jacob n'a pas voulu être le sacrifice de l'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu rester hanté dans l'Égypte. Il nous enseigne cette partie du Midrash. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus terrible derrière. Un autre verset qui dit « Upsile Elohim tisrefun ba'esh » Les effigies de leur Dieu, vous les brûlerez par le feu. Alors c'est très dangereux de se laisser définir comme divin chez les païens. Bon, je referme la parenthèse, mais vous avez compris à quoi ça fait peur. Alors nous continuons. Les autres créatures que l'âne, où il y a une forme beaucoup plus différenciée, plus importante, là, il n'y a pas cette simplicité de l'indifférenciation dont nous parlons. Parce que pour pouvoir recevoir la forme, il faut déjà complexité. Harkava. Yot murkav. Kedeshi ikabel atzura hashuva. De telle sorte de pouvoir recevoir cette forme. Ulfichach nibra adam aharon yoter mikol hanibraim. Et c'est pourquoi l'homme a été créé le dernier de toutes les créatures. Il est le plus murkav. Ki la chashivut tzurato tzarich harkava yoter ad shi ikabel atzura. Je pense que vous êtes frappé du parallèle qu'il y a entre ce vocabulaire et celui qui est le vocabulaire qui serait un vocabulaire évolutionniste. Et c'est très parallèle. Quoique on ne peut pas du tout imputer au Maharal la doctrine de l'évolution. Mais il dit que l'organisme de l'homme, pour lui-même, depuis le commencement de la première cellule, est beaucoup plus différencié que tout autre organisme parce que l'homme, en tant qu'être biologique, déjà, va recevoir une forme. L'idée d'homme, une forme beaucoup plus élevée, beaucoup plus supérieure. Je veux quand même préciser cela parce que je crains qu'il y ait malentendu. Et, étant donné l'analogie du vocabulaire, simplement on vous rappelle un schéma très simple. C'est que, suivant ce qui serait, je vais mettre là, l'explication propre à la Torah du problème de la multiplicité des formes de la vie que veulent expliquer les doctrines évolutionniste, nous aurons à peu près le chemin suivant. C'est qu'à partir d'un même point de départ, qui est appelé le Afar Mina Adama, il y a eu différentes tentatives de lignée biologique. Et puis, finalement, chacune a sa propre histoire jusqu'au moment où elle reçoit sa forme, si vous voulez. Ce n'est pas que telle espèce est devenue celle-là, puis celle-là, puis celle-là, mais qu'à partir de l'origine de la vie, eh bien, si je mets ici en projection, les différentes espèces apparaissent comme plus évoluées l'une de l'autre, mais non pas parce qu'elles se sont déboîtées l'une des autres, parce que si elles étaient déboîtées l'une des autres, pourquoi elles ne continuent pas? Pourquoi nous ne voyons pas encore un singe devenir homme? Et on voit des hommes devenir singes. Eh bien, c'est le fait que chaque lignée vivante aurait dans sa propre histoire évolutive une histoire de complexification, complexité de plus en plus grande. Est-ce que c'est clair ce que j'essaye de montrer? Et on peut dire que c'est aussi parallèle au fait que l'embryologie récapitule, au niveau de chaque espèce, récapitule ce qui s'est passé dans tout l'antérieur et que c'est pas pour rien parce que c'est cette même histoire de l'être vivant depuis l'origine, qui continue plus loin. D'une certaine manière, si vous voulez, ce n'est pas que l'homme, si je le mets là, serait un animal devenu homme, sur cette ligne fictive de l'explication philosophique du phénomène, mais c'est l'inverse, c'est l'animal, est un être vivant qui n'a pas réussi à arriver à être homme. Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors l'âme représenterait ici un cas particulier de l'indifférenciation la plus... Ça se passe où? Et c'est le concept de Yetzira. Ça se passe dans la Yetzira. Tu veux dire, est-ce que ça s'est passé dans un temps de l'histoire ou est-ce que c'est simplement récapitulé? C'est récapitulé dans la notion de Yetzira. Voilà, le Midrash nous dit que le premier homme est né à l'âge de 20 ans. Je veux dire que ce qui se reflète dans l'observation empirique, expérimentale que nous avons de l'histoire des espèces, et c'est bien évidemment cela, c'est le fait que il y a une sorte de solution de continuité entre les espèces, et cependant, il n'empêche qu'en projection horizontale, si vous voulez, on peut ranger les fossiles du point de vue d'un ordre croissant de complexité, pas linéaire, bien sûr, vous savez que c'est extraordinairement plus compliqué que ça, ce sont des gerbes de feux d'artifice, comme dirait Bergson d'ailleurs dans l'évolution créatrice, beaucoup plus que des lignes linéaires donc. Mais il n'est pas nécessaire de dire que l'homme est un animal devenu homme. Il est beaucoup plus biblique de comprendre que l'animal est un être vivant qui n'est pas arrivé à être l'homme. C'est-à-dire le projet de Totse Haaretz, Nefesh, Nefesh Haya, et que Nefesh est le terme commun pour dire l'animal et l'homme. Nefesh.
Ça exclut complètement la théorie de Darwin.
Et celle des autres aussi, les autres aussi, et la marque, et
ouais,
les...
ouais.
C'est-à-dire que, en général, vous savez, les questions sont posées par les savants, et pas toujours ils n'arrivent à donner les réponses de leurs questions, mais leur question est bien posée. Bien, yeah. Oui.
Juste, en ce qui concerne l'âme, c'est donc un être très indifférencié, et pourtant, il est impur. Comment peut-il être totalement impur et...
Oui. Eh bien, parce qu'il ne présente pas, disons, les caractères des espèces qui sont définies comme étant pures. Il y a une difficulté, indéniablement, et qui sont définies comme étant pures, en tant aussi, d'autre part, qu'ils sont indifférenciés. Mais moi, je ne peux pas vous expliquer plus que ce qui apparaît de la correspondance du vocabulaire. Ici, le Maharal nous cache des choses. Eh bien, il faut en prendre acte. Mais enfin, la direction d'explication me paraît suffisamment claire. C'est ce qui est, dans le monde des animaux impurs, le plus indifférencié quand même, le plus noté la homriou, comme il dit, ce qui tend vers le homer absolu. Et donc, on va reconnaître cette... cette excellence, si vous voulez, prééminence de celui parmi les animaux impurs qui en est le premier-né. Alors ça va être reconnu par la Torah elle-même, mais malgré tout, c'est pas une chair consommable, etc. Bien, Utanze, Hamor, Bema, Sheum, Noté, La Homer, ce que nous disions justement, l'âne. En ce fait que sa tendance est de tendre vers la matérialité, pour Réchit Abaralechaïm, c'est le premier, et ce sera appelé Réchit, commencement. Comme tout Bechor, comme tout premier-né, comme nous avions vu dans les premiers cours. Des êtres vivants, Mikol Abehemot, de tous les animaux, Sheba Olam, dans le monde, Barou Pshituto, par le fait de sa simplicité. Simplicité en tant que forme n'ayant pas reçu de forme complexe. Ulzeat ha'am hayav ha'amur shehu be'emat emea b'bechor. Et c'est pourquoi la Torah va légiférer par rapport à l'âme sur le principe du rachat du premier-né, velo shum be'emat emea ba'olam, alors que ce ne sera le cas pour aucune autre bête impure dans le monde. Par le fait qu'il est plus indifférencié, plus simple, alors le concerne ce principe de l'aînesse et du commencement. Shekola Sheru Pashut ou Réchit, l'amour Kavim Shahara. Parce que tout ce qui est simple, mais plus simple, est commencement aux êtres complexes qui viennent par la suite. Et peut-être qu'il faut rappeler ça un peu, non pas en schéma linéaire, mais un peu à travers cette figure qui me semble représenter beaucoup mieux la réalité telle qu'elle est décrite par le vestibule. Ve'aréchit shayach bo bechor. Or, tout ce qui est réchit, commencement, a le statut de l'aîné. Qui lo hayara ou shumbe matmea, les mitzvot bechora. Car il n'était convenable à aucune autre bête impure d'avoir aussi cette prescription de l'aînesse, bishvil shen achalav du shahal d'abartame. Car, c'est moi qui ajoute en principe, la sainteté ne peut être attribuée à quoi que ce soit d'impur. Rak hamor, sauf l'âme, mipene shehu ve'atzmo reshut. Parce qu'il est en lui-même le principe, commencement, mipene shehu pashut. Parce qu'il est plus simple. Vous voyez donc la surprise que nous avons. La sainteté ne peut être connue à rien dans l'ordre de l'impureté, sauf